France Musique. Musicopolis. Octobre 1940, Dresde. La soirée a lieu au Stadttheater de Dresde. Deux œuvres du même compositeur sont au programme dans une somptueuse mise en scène sous la direction de Karl Böhm. D'abord, la fable Orpheus, une adaptation de l'opéra de Monteverdi, dont cette version est donnée ce soir en création. Et puis, une œuvre qui n'a plus à faire ses preuves, c'est déjà un succès. On l'a joué pendant près d'un an à l'Opéra de Francfort, ce qui a fait dire à son auteur « c'est une attraction permanente ». S'il y avait eu quelques interrogations et quelques critiques à propos des Carmina Burana de Karl Orff depuis sa création en 1937, après la représentation triomphale du 4 octobre 1940 à Dresde, l'œuvre est devenue officiellement, comme le signale son éditeur Schott, la musique claire, ardente et ordonnée nécessaire à notre époque. Musique claire, ardente et ordonnée, nécessaire à notre époque. Rappelons que l'époque dont il s'agit est 1940, donc en plein Troisième Reich, 7 ans après l'accession d'Hitler au pouvoir et 1 an après le début de la Deuxième Guerre mondiale. Cette assertion pose au moins 2 questions. La première, en quoi cette musique-là peut-elle être nécessaire à l'époque du Troisième Reich ? Et la deuxième, le compositeur est-il responsable de cette particularité de sa musique ou, dit autrement, a-t-il écrit une musique qu'il savait convenir à son époque? Pour répondre, il va nous falloir faire un petit tour d'horizon et pour commencer, investiguer un peu sur le devenir des Carmina Burana après 1940. Les critiques qui suivent le concert triomphal des Carmina Burana à Dresde le 4 octobre 1940 sont dans l'ensemble excellentes, y compris celles qui émanent de la presse du régime. Vont suivre des exécutions de l'œuvre dans toute l'Allemagne. Essen, Cologne, Mayence, Görlitz, Francfort, Göttingen, Hambourg et encore Aix-la-Chapelle sous la direction d'Herbert von Karajan et Münster sous la direction de Hans Rosbaud. Même à Munich, où le public est plus conservateur qu'ailleurs, les Carmina Burana sont bien accueillis. Dès janvier 1942, l'œuvre est montée à Berlin, sous la direction de Karajan, qui est entre-temps montée à la capitale. Fritz Steg, journaliste associé à plusieurs institutions musicales du régime, se répand en louanges pour cette œuvre, souvent jouée à guichet fermé. Orff écrit à plusieurs amis et à son éditeur que c'est un énorme succès. Comme le souligne Michael Ketter, auteur d'un livre sur les compositeurs sous le nazisme, dont un chapitre traite de Karl Orff et notamment de Carmina Burana, le succès de l'œuvre après 1940 est une véritable success story. Qui bien sûr rejaillit sur son auteur. En 1941, le service de presse du ministère de la Propagande demande dans une directive que dorénavant, les œuvres de Orff soient critiquées favorablement. L'éditeur Schott se réjouit que le ministère trouve beaucoup d'intérêt à l'œuvre. En février 1942, le président de la Chambre de la musique du Reich ordonne que Orff ne soit pas privé de ligne téléphonique. Lui qui fait partie de l'establishment musical allemand. À l'été 1942, Karl Orff reçoit un prix de 2000 marks. Qu'est-ce qui plaît tant dans les Carmina Burana sous le Troisième Reich ? En premier lieu, probablement, la même chose qui plaît aujourd'hui, à savoir une très grande vitalité rythmique, soutenue par un orchestre très coloré et percussif. Ensuite, tout ce qui s'apparente à la répétition à grande échelle et qui procure un sentiment un peu hypnotique, un peu comme les chants de défilé. Notamment la forme strophique des chants, dont la musique se reproduit à chaque strophe lorsque les paroles changent, et le grand nombre de figures de rythme ou de mélodies qui reviennent obstinément, parfois comme le bourdon d'une cornemuse. Enfin, la grande simplicité des mélodies, qui s'apparente parfois même à de simples comptines avec répétition de notes. Okay. En 1943, Karl Orff est invité par le ministère de la Propagande à faire entendre et à expliquer sa nouvelle œuvre « Cathuli Carmina ». Peu après, on entend sa musique à la radio, à la Große Deutsche Rundfunk, radio de la Grande Allemagne. Et en 1944, il fait partie des compositeurs, nous dit Michael Keiter, dont la radio ne pouvait pas se passer. Le 12 septembre 1944, après avoir écouté les Carmina Burana à la radio, Goebbels écrit dans son journal « Dans le cas de Karl Orff, nous ne sommes pas du tout confrontés à un talent atonal. Au contraire, ces Carmina Burana sont d'une beauté exquise. Et si nous pouvions l'amener à modifier les paroles, sa musique serait certainement très prometteuse. Je le ferai venir à la prochaine occasion. »
Nova mundo reserat faciem aprilis ad amorem properat animus erilis et iocundis imperat Deus puerilis. Tanta novitas in solenni vere et feris auctoritas iubet nos cautere vias prebet solitas et in tuo vere fides est et probitas tuum retinere. Miam nota de corde totaliter et ex mente tota sum presensialiter absent in remota quis quis amataliter volvitur in rota.
Pourquoi Goebbels se plaint-il donc du texte des Carmina Burana? D'abord, peut-être lui reproche-t-il d'être parti en latin, parti en vieil allemand, parti en vieux français, un peu éloigné du peuple allemand actuel. Le texte est tiré d'un recueil de chants profanes du XIIIe siècle, découvert dans une abbaye de Bavière, Benedikt Bojern, d'où le nom de Carmina Burana, c'est-à-dire chant de Bojern. Ces chants sont à l'origine écrits par des goliards, des clercs itinérants, ecclésiastiques défroqués ou étudiants vagabonds. Certains chants sont très poétiques, comme celui que nous venons d'écouter. Le soleil réchauffe tout, pur et subtil. Au monde nouveau, il révèle le visage d'avril. Vers l'amour se hâte le cœur de l'homme. Pas de quoi froisser les chastes oreilles de Goebbels. En revanche, celui-ci, « Si un garçon avec une fille se trouve seul dans une chambre, ils s'unissent avec transport. Leur passion croît et toute modestie est mise de côté. Un plaisir ineffable se répand dans leurs membres, leurs bras et leurs lèvres. » Et le texte suivant continue sur le même ton. « Viens, 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 ne me fais pas mourir !»
Si pour cum puellula morare tu in cellula felix conjunctio. Si pour cum puellula morare tu in cellula felix conjunctio. Amore sos presente,
pariter e medio.
Amore sos presente,
pariter e medio.
Avulso corpoetelio,
avulso corpoetelio. Fillulus ineffabilis, membris laziatis labilis.
Fillulus ineffabilis, membris laziatis labilis. Si! Pure cum puellula morare tu in cellula.
Hi, 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 hi.
Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Karl Orff est l'un des compositeurs les plus en vue du régime. Il peut se retourner en arrière et voir comme il a fait du chemin depuis sa jeunesse. Après ses études de compositeur et de chef d'orchestre, il s'est beaucoup consacré à l'étude des maîtres anciens des XVIe et XVIIe siècles. Une partie de son travail s'est fait autour d'adaptations d'opéra ou de madrigaux de Monteverdi, de pièces de William Byrd et de la Passion selon Saint-Luc de Bach. Il est également très investi dans la pédagogie. Il collabore à la fondation d'une école. Il conçoit une méthode d'enseignement centrée autour de l'enfant qui privilégie l'improvisation, la danse et les jeux avec des percussions. Il commence à publier des volumes d'une méthode qu'on appelle aujourd'hui la méthode Orff. En 1933, avec l'accession de Hitler au pouvoir, la carrière de Karl Orff connaît un certain ralentissement. Il n'est pas membre du parti nazi, mais il cherche à faire connaître sa méthode grâce à ses relations, dont certaines proches du régime. S'il doit répondre à certaines attaques en raison de son amour pour les percussions un peu exotiques, il rétorque qu'au moins, sa musique est très éloignée de celles qui sont alors qualifiées de dégénérées, à savoir la musique atonale ou celle qui est inspirée du jazz. Pendant les années qui suivent, il adapte certains éléments de sa méthode pour se rapprocher de ce que voudraient les nazis, une musique proche du chant populaire et qui peut trouver place dans le répertoire allemand. Ses éditeurs affirment qu'il a établi une base authentique, enracinée dans la race et le peuple. Pourtant, malgré ses relations avec certains dirigeants des jeunesses hitlériennes, il ne parviendra pas à leur faire adopter sa méthode, un peu trop compliquée peut-être pour former des SS de base. On lui commandera quand même, pour les Jeux Olympiques de 1936, une pièce pour la jeunesse.
Zip, zip, zip.
La création des Carmina Burana de Karl Orff a lieu en 1937. Orff a un peu peur que ses chansons bavaroises soient jugées pas assez allemandes par les autorités. Mais le succès est grand et selon lui, 90% des critiques sont favorables. Seul un certain Gehring reproche à l'œuvre toute une série de problèmes, notamment le retour à des éléments primitifs et des formules rythmiques jazzy. Critique suffisante pour empêcher certains chefs de se lancer dans l'aventure, mais cependant, dès l'année suivante, le parcours de l'œuvre reprend et sa success story ne s'arrêtera plus. En novembre 1945, Karl Orff, qu'on savait compromis avec le régime nazi, par des commandes, des honneurs et des relations très suivies avec d'éminents personnages, est placé par les Américains sur une liste grise. Ni la liste noire des nazis, ni la liste blanche de ceux qui n'avaient pas collaboré du tout. Mais grise, avec tout de même la précision, grise inacceptable. Il a la chance d'être interrogé par un officier américain qu'il a eu pour élève et qu'il admire beaucoup. Il va lui raconter une histoire et se construire une légende, qui dit notamment qu'il a fondé un groupe de résistants, c'est faux, que les Carmina ont été interdits entre 1937 et 40, c'est faux, qu'il n'a jamais reçu de commande des nazis, c'est faux, et que, bref, sans être un héros, il a résisté comme il a pu, c'est faux. Grâce à ces mensonges, Orff va passer sur l'autre liste grise, celle des acceptables. Il échappera ainsi à un procès en dénazification. Fortuna, le premier et le dernier morceau des Carmina Burana de Karl Orff, le chœur et l'orchestre symphonique de la radio de Cologne, dirigé par Wolfgang Savalich, la première version autorisée, supervisée par Orff, enregistrée en 1956. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Benjamin Vignal pour le mixage et Max Dosholm pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.